إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de lectures et d'explications des 40 hadiths de l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah. Nous sommes arrêtés au dernier cours, au cinquième hadith. Donc aujourd'hui nous en sommes au sixième. Le hadith al-Salis عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. سنو أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques aura préservé sa religion et son honneur. Par contre, quiconque s'est laissé tomber dans les choses équivoques tombera dans les choses illicites, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain a un domaine réservé. Et celui d'Allah est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, quand il est bon, tout le corps le sera, et quand il est corrompu, tout le corps le sera, n'est-ce pas que c'est le cœur ? Ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme l'a expliqué Al-Hafidh, l'écrivain, rahimahullah, mais dans la version de Muslim que l'on a, il y a certaines petites différences dans quelques mots, bien que la version soit la même. Ce hadith parle des règles religieuses qui sont dirigées vers l'être humain, concernant leur apparence ou le fait qu'elles soient équivoques ou cachées, c'est-à-dire pas claires. Donc la première catégorie, c'est les règles religieuses apparente et claire. C'est-à-dire le halal, le licite qui est clair. L'illicite qui est clair. Par exemple, le licite qui est clair, les animaux de cheptel, qui sont licites à manger. Les chameaux, les bovins, les ovins, ça fait partie du licite qui est clair. L'illicite qui est clair, comme la fornication, comme l'usure, comme toutes ces choses dont leur caractère illicite est clair. La deuxième catégorie, c'est les actes ou bien les règles religieuses dans lesquelles la règle n'est pas si évidente que ça, pas claire, équivoque. Le mot « mushtabih » ou « mutashabih » en arabe, il peut avoir deux sens. Un sens général qui veut dire la ressemblance. C'est pour ça qu'on dit « yushbihuhu », il lui ressemble. Et ça, ce n'est pas dans le sens de l'équivoque comme on le voit ici. C'est un sens général par lequel le Coran a été désigné. « Kitaban mutashabihan » comme Allah Ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, verset 23, « Kitaban mutashabihan » c'est-à-dire qu'il y a des versets qui ressemblent à d'autres, qui s'appuient l'un l'autre, qui se confirment l'un l'autre, ressemblant. Donc, le mutashabih, ça peut être dans le sens ressemblant, ou ça peut être dans le sens équivoque. Ici, ce qui est voulu ici par le texte, c'est pas le sens ressemblant, mais plutôt le deuxième sens. Ce qui est équivoque. Ce dont la compréhension n'est pas claire, ou n'est pas évidente. Cette deuxième partie dans les choses qui sont, dont la compréhension n'est pas évidente ou pas claire, elle est aussi en deux catégories. Elle se décompose aussi en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a gardé auprès de lui dans sa science. Et qui nous a caché sa connaissance, dont il nous a caché sa connaissance. Mais ceci ne concerne pas les règles religieuses demandées à l'être humain, c'est-à-dire dans la pratique. Elles concernent les règles religieuses concernant les informations, c'est-à-dire la croyance. Comme par exemple, la réalité des attributs d'Allah. Comme par exemple, la réalité de la connaissance des situations du jour du jugement dernier. On ne les connaît pas. On les affirme comme Allah les a affirmés, mais on ne connaît pas la réalité, leur essence. On ne la connaît pas. Ça, Allah Ta'ala l'a gardé dans sa science. Et cette partie de science, on ne peut pas l'atteindre. Car elle fait partie des informations. Si elle n'est pas révélée par la révélation, on ne peut pas la connaître. Donc ça fait partie des choses dont Allah Ta'ala a réservé cette science, c'est réservé cette science à lui-même. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie des choses qui sont équivoques, c'est concernant les règles religieuses dans lesquelles il y a une demande d'action au serviteur. Il a une responsabilité. Qu'on appelle en arabe al-khitab al-shar'i al-talabi. Le premier, c'est al-khitab al-shar'i al-khabari, informatif, qui concerne les informations de l'au-delà, du monde invisible. Et ça, al-khitab al-shar'i al-talabi, le discours religieux dans lequel il y a une demande, une exigence, une responsabilité qui est engagée pour l'être humain. Alors, dans cette deuxième catégorie-là, c'est celle qui est voulue par ce hadith. C'est-à-dire dans les actes, ou dans les œuvres, ou dans les choses dont le statut religieux est équivoque. On ne sait pas. Et cette catégorie de choses équivoques, elle se compose aussi en deux sous-catégories. La première, ceux pour qui elles ne sont pas équivoques. Ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici, en disant il y a très peu de gens qui le connaissent. Donc ça veut dire qu'il y a certains gens qui le connaissent. Ce sont les savants. Et ce ne sont même pas tous les savants. Donc certains connaisseurs, certaines personnes connaissent le statut juridique de certaines choses qui sont considérées équivoques par le commun des gens. N'est-ce pas? Le concernant lui, concernant ce type de personnes qui ont la connaissance et la science du statut juridique de cette chose, elle n'est pas considérée équivoque pour nous. Elle est considérée claire. Et pour lui, il lui sera permis de l'appliquer. C'est-à-dire, s'il considère que c'est halal, il le pratiquera. Parce que pour lui, ce n'est pas équivoque. Parce qu'il a la science et la connaissance que c'est clairement halal, par exemple. Ou clairement haram. Donc, concernant cette personne qui a la connaissance, elle n'est pas considérée comme une chose équivoque. Mais ce nombre de gens sont peu, sont très peu. Mais il y a un point auquel il faut prêter attention. Quand une chose est considérée par le commun des gens comme une chose équivoque, même si quelqu'un a de la science et il sait qu'elle n'est pas équivoque, qu'elle est licite, il évite de le faire aux yeux des gens, pour ne pas qu'on pense du mal de lui. Même si lui, auprès d'Allah, il a une preuve. Mais comme auprès des gens, c'est équivoque, ce n'est pas clair, il ne le fait pas en public. Car le faire en public, cela sera la cause que son honneur et sa religion soient critiqués. Certains vont dire, oui, mais si c'est pas haram, pourquoi il va se cacher de le faire en public? Pourquoi il va se justifier? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un soir, était avec son épouse, Safiya, bint Huyay. Et il est passé dans la nuit, deux parmi ses compagnons l'ont vu au loin. Une fois qu'ils ont passé le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il leur a dit, c'était mon épouse, sa fille. Ils ont dit, oh messager d'Allah, on ne penserait jamais de toi autre chose que c'est ton épouse. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, le shaitan coule dans les veines de l'être humain comme son sang. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui va penser du mal de lui? Il est venu se justifier, c'est mon épouse. Ça montre que la personne, il doit rester à l'écart des situations, des paroles et des états qui peuvent être douteux pour les gens, même si c'est pas haram. Et dans ce cas-là, dans le cas où une chose est considérée équivoque par la majorité des gens, si une personne ayant la science sait que c'est une chose halal et qu'il en est convaincu et qu'il veut la pratiquer, il le fait, mais sans l'ébruiter, sans le faire en public, pour éviter justement que son honneur et sa religion soient touchés. La deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui n'en connaissent pas le statut juridique. Ils ne savent pas. Pour eux, ça reste équivoque. Ils ne savent pas. C'est halal, c'est haram, c'est douteux. N'est-ce pas? Cette deuxième catégorie, il leur est interdit de le pratiquer. Car il leur est interdit de pratiquer une chose dans laquelle ils ne connaissent pas le statut juridique. Et il convient aux musulmans de ne rien faire dans sa vie sans en connaître le statut juridique. Et du fait qu'ils ne connaissent pas le statut juridique, donc ils n'auraient pas permis de le pratiquer. Certains vont dire, pourtant l'islam c'est haram halal. Tant que c'est pas haram, j'ai le droit de le faire. Si c'est pas clairement haram, j'ai le droit de le faire. Alors ces personnes-là, en vérité, ils n'ont rien compris à l'islam et à la charia. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Il n'a pas dit وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas la fornication. N'approchez pas. C'est-à-dire qu'Allah a interdit de commettre la fornication et Allah a interdit tout ce qui peut en approcher. On comprend que la charia ne s'est pas contentée d'interdire certains actes, mais il a interdit aussi les causes et les moyens pouvant y mener. Pouvant y mener. Et les shubuhat, les choses équivoques, font partie. Font partie de ces choses qui mènent au haram. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien imagé, d'une manière très claire. Il a dit, c'est comme le berger qui fait paître son troupeau au bord d'un domaine réservé, d'un souverain. Aux limites. Il s'en faut peu pour que ces bêtes, elles aillent paître dans le domaine réservé du souverain. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de les perdre. Peut-être qu'il va les tuer. Peut-être qu'il va les chasser. Peut-être qu'il va avoir une punition. N'est-ce pas? Qui est responsable? C'est lui le responsable. Pourquoi il est venu faire paître son troupeau aux limites du domaine réservé du souverain? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'approche des choses équivoques ou qui plonge dans les choses équivoques, c'est comme celui qui fait paître son troupeau au bord des limites sacrées d'un souverain. Elle dit, n'est-ce pas que chaque souverain, il a un domaine réservé? Et n'est-ce pas, et Allah subhanahu wa ta'ala a un domaine réservé, c'est le haram, l'illicite. Allah ta'ala a préservé les croyants et a fait une barrière entre eux et le haram. Cette barrière des moyens et des causes menant au haram. Il les a aussi interdites. Par exemple, pourquoi en islam, c'est interdit qu'un homme et une femme s'isolent? Pourquoi un homme et une femme n'ont pas le droit d'avoir de contact physique? Pourquoi tout ça? La mixité qui mène à la fitna. Ghaliban. Pourquoi toutes ces choses sont interdites? Parce que ce sont des moyens qui mènent à ce qui est encore plus grave. Et ça entre dans le verset où Allah Ta'ala dit « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ». C'est la même chose dans tout ordre religieux. Il ne faut pas se contenter de dire « je délaisse le haram ». Je dois délaisser les causes et les moyens y menant et les choses équivoques l'entourant. Comme ça, on est sûr d'en être préservé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de finir, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps? Quand il est bon, tout le corps est bon. Quand il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Effectivement, quelqu'un qui a un cœur sain, ce cœur sain, il le pousse à s'éloigner du haram et des choses équivoques. Quelqu'un qui a un cœur corrompu, alors, plus il est corrompu, et moins il est sensible aux actes pouvant lui nuire. En fait, le cœur, c'est comme un capteur. Plus il est éveillé, plus sa force pour capter le danger qui le guette est forte. Plus il est enivré par le dunya et entaché par les péchés, plus sa vision, elle est trouble. Il ne voit pas clair. Devant lui, il y a un feu, il ne le voit pas comme du feu, il voit comme de la lumière. Il dit, c'est bien, je vais foncer dedans. On lui apporte quelque chose, c'est du poison, non, il dit, c'est un bon fruit, il le mange. Pourquoi? Parce que sa vision est troublée, est flouée. Elle peut être troublée, flouée, jusqu'à... Comme Allah Ta'ala a dit, « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun »« Ma kanu yaksibun » Certes, nous avons mis un sceau sur leur cœur à cause de ce qu'ils faisaient comme acte. Donc le cœur et les œuvres sont liés. Quelqu'un a fait des mauvaises œuvres, il ne peut pas prétendre avoir un cœur sain. Car un cœur sain, il pousse à des bonnes paroles, à des bonnes œuvres. Un cœur sain, il est éveillé, il est attentif, il n'est pas insouciant. Il a la clairvoyance. Pour ça, on dit al-basira, il est clairvoyant, il voit clair. À la différence du cœur entaché, enivré, malade. Qu'Allah nous en préserve. Le prochain hadith, le hadith al-sabi'a. عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم سنو أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la religion est la sincérité. Nous demandâmes, envers qui au messager d'Allah? Il dit, envers Allah, envers son livre, envers son prophète, envers les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans et l'ensemble des musulmans, rapporté par l'imam musulman. الدين النصيحة. La religion est la sincérité. C'est-à-dire, la religion en entier est la sincérité. Et la réalité de cette nasiha, on pourrait l'expliquer par le fait que chacun, chaque nasir, chaque personne qui fait la nasiha, il donne le droit envers la personne à qui il fait nasiha. Il donne son droit. Il lui donne son droit. Donc, on pourrait résumer par la religion, c'est de donner les droits. D'être sincère et loyal et de donner le droit à chacun. Le droit d'Allah, le droit de son livre, le droit du messager, le droit des dirigeants des musulmans, le droit du commun des musulmans. Donc ton devoir vis-à-vis d'eux, tu as un devoir vis-à-vis de chacun, chacune des catégories. Tu as un devoir vis-à-vis d'Allah, de lui vouer un culte exclusif, de lui obéir, etc. Le droit d'Allah. Un devoir envers le livre d'Allah, ce qu'on en parle. Un devoir envers le messager d'Allah et le commun des musulmans. Cette nasiha, cette sincérité et ce devoir, cette loyauté, on peut la comprendre de deux types. Une où l'intérêt est tiré pour celui qui fait l'acte, c'est-à-dire celui qui en tire l'intérêt, c'est celui qui est sincère, celui qui est loyal, et ceci concerne la sincérité envers Allah, envers son livre et son messager. C'est toi qui en profites. Allah ne profite pas de ta sincérité envers lui. Le Coran ne profite pas de ta sincérité envers lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne profite pas de ta sincérité, de ta loyauté envers lui. C'est toi qui en profites seul. N'est-ce pas? Et une deuxième catégorie, ceux dont celui qui est sincère et celui qui est conseillé profitent. Les deux profitent. Cette deuxième catégorie, ce sont les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Donc ta sincérité envers eux, elle te fait gagner des récompenses. Elle te fait accomplir ton devoir envers eux. Et en même temps, eux, ils en profitent. Ils en profitent du fait que, en étant sincères envers eux, en leur donnant le bon conseil, en étant loyal envers eux, ils en profitent du fait qu'ils peuvent se corriger, qu'ils peuvent aussi, ça peut les aider à eux aussi accomplir leurs obligations religieuses, que ce soit envers les autres musulmans, ou envers les gens, ou envers toi. Et ça peu importe qu'ils acceptent ce conseil ou cette sincérité ou qu'ils la refusent, toi ton devoir c'est d'être sincère et loyal envers eux. Même si eux, de leur côté, ils ne font pas leur devoir. Que ce soit tes proches, que ce soit le commun des musulmans, tes voisins, que ce soit les dirigeants des musulmans. On voit ici aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa a'immatil muslimin » il l'a dit au pluriel, les dirigeants des musulmans. On sait qu'en islam, à la base, il y a un dirigeant pour tous les musulmans. Pourquoi ici il dit « les dirigeants » Il sous-entend ceux qui ont des directions subalternes, c'est-à-dire le dirigeant, les ministres, les sous-ministres, les directeurs, même les directeurs d'école, les responsables de mosquées, chaque personne qui a une responsabilité sur le reste des musulmans. Il fait partie des dirigeants des musulmans. Et de ce fait, Allah Ta'ala leur a donné un rang particulier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, comme vous voyez, il a séparé entre la nasiha qu'on doit aux dirigeants des musulmans et la nasiha qu'on fait à l'ensemble des musulmans. Pourquoi il l'a séparé? Du fait que la manière de leur faire nasiha, elle est différente. Effectivement, un musulman du commun, il se peut que parfois tu le conseilles en public, quand c'est nécessaire. Alors qu'un dirigeant parmi les musulmans, tu n'as pas à le conseiller en public, tu dois le conseiller en privé. Car en le conseillant en public, en le reprenant en public, tu encourages les gens à ne pas le respecter. Et il a une place qui nécessite, qui mérite un respect. Si tout le monde lui parle comme il veut, tout le monde le reprend en public, que vont penser les gens de ce dirigeant? C'est une manière de les pousser à se rebeller contre lui, à remettre en question son autorité. N'est-ce pas? À la maison, quelque chose de très simple. À la maison, si ton épouse elle te reprend devant tes enfants, à chaque chose que tu dis, ils vont t'écouter des enfants après? Est-ce que tu auras une autorité sur tes enfants? De même, si toi tu la reprends à chaque fois qu'elle reprend les enfants, devant eux, est-ce qu'elle aura une autorité sur les enfants? Non, c'est toi qui as cassé son autorité. Ou c'est elle qui a cassé ton autorité avec cette action. Donc, le conseil que l'on donne à quelqu'un qui a une responsabilité, il n'est pas donné de la même manière que le conseil que l'on donne au commun des musulmans, à l'ensemble des musulmans. Même l'ensemble des musulmans, tant que tu peux le cacher, c'est mieux. Mais parfois, il est nécessaire de le dévoiler en public. Non, c'est un innovateur. Non, c'est quelqu'un dont son mal se répand partout. N'est-ce pas? Alors là, cette parole, par exemple, quelqu'un a dit une parole d'égard. Ou alors même si c'est quelqu'un de la sunna, mais il a dit une parole fausse, une erreur. Son erreur s'est répandue partout. Il a un grand auditoire. Alors, ou bien tu le conseilles en privé et lui-même il corrige cette erreur. C'est bien. Ou bien tu corriges cette erreur toi-même en public, si tu es quelqu'un qui est capable de faire cela, tout en gardant le respect pour la personne. Par exemple, même un savant, un grand savant, il fait une erreur. Il n'est pas préservé de l'erreur, n'est-ce pas? Du fait que les gens, ils le respectent, ils vont prendre cette erreur. Alors, il se peut que d'autres savants vont répondre en public, parfois même un peu virulemment, pour montrer la gravité de l'erreur, tout en montrant le respect pour ce savant, sans le traiter de le taxer d'égaré ou d'innovateur ou autre. Car préserver la religion et l'intérêt général, ça passe avant l'intérêt personnel, de préserver l'honneur de cette personne, n'est-ce pas, ou de ne pas le reprendre en public. Donc tout ceci revient à l'intérêt et au méfait. Parfois, il y a un intérêt de reprendre quelqu'un, de le conseiller en public. Parfois, l'intérêt, c'est de le conseiller en privé. Mais concernant les dirigeants des musulmans, il y a des ordres spécifiques, clairs, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, dans un hadith authentifié, si tu vois une chose qui te déplaît auprès de ton gouverneur, alors va le prendre par la main et conseille-le en privé. S'il accepte, alhamdulillah, sinon tu auras fait ton devoir. Dans l'autre hadith, souvent que les gens utilisent à tort, ils disent, le plus grand des martyrs, c'est celui qui a dit une vérité devant un tyran et qui a été tué. Alors lui, il se cache derrière Internet et il insulte de loin. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit devant lui, va devant lui et dis-lui. Si là, il te dit, tu seras parmi les meilleurs des martyrs. Oui. Va devant lui et dis-lui. Va pas dans une île cachée derrière YouTube et tu l'insultes. Ça, non. Vous avez compris? Il a dit aussi dans le hadith que une des meilleures paroles, c'est de dire une parole de vérité devant un gouverneur injuste. Oui, devant lui. Donc, quand tu es auprès de lui, tu as le droit de le reprendre et de le réprimander ou de le conseiller. Mais tu n'as pas à le faire sur les minbars ou sur Internet ou par écrit, de manière à pousser les gens à se révolter contre nous. Et ça, c'est la voie qu'ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont suivi les tabi'in, et les tabi'in, et tous les savants de l'islam sur la sunna se sont accordés sur ça. Se sont accordés sur ça, sur la manière dont le gouverneur doit être conseillé, même quand il a des erreurs. À l'époque des compagnons, il y a eu certains compagnons qui étaient vivants sous des gouverneurs qui ont tué plein de gens injustement. Jamais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont appelé à se révolter contre eux, et ils priaient derrière eux, et ils invoquaient Allah pour eux. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a été éprouvé, torturé, emprisonné, et il a invoqué pour le gouverneur. Et alors que ce gouverneur, à son époque, il disait des paroles de mécréance, il avait adopté la croyance de ceux qui disaient que le Coran était créé, l'imam Ahmed ne le rendait pas mécréant. Pour ceci, il priait derrière lui. Il disait que la prière derrière lui était valide. Voilà la voie que l'islam nous a laissée dans la manière d'arranger les choses, de corriger. Amma, ceux qui parlent en public, ils ne corrigent pas, ils ne font que corrompre. À part affaiblir les pays musulmans, ils n'ont rien gagné. Ils les ont affaiblis. Regardez les révolutions, là, les printemps arabes. Ce n'est pas des printemps, c'est des hivers. Avant cette période-là, sans aucun doute, les pays musulmans étaient plus forts et plus stables que maintenant. Maintenant, la plupart sont instables, divisés, des guerres civiles, des morts, des parties de leur pays qui ont été séparées, et le reste du monde musulman qui est encore plus affaibli. Qui a gagné derrière tout ça? C'est sûr que ce n'est pas les musulmans qui ont gagné, qui en ont profité. Donc, l'importance donc d'être sincère et loyaux, et de savoir comment corriger les choses quand on voit des erreurs. La bonne intention ne suffit pas. Il faut que la manière qu'on adopte pour corriger les choses soit une manière agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en profite pour faire une parenthèse, surtout les réseaux sociaux, ils ont donné la parole à beaucoup de corrupteurs qui sont là à répandre que les défauts du monde musulman. Leur objectif, au nom de soi-disant, ils parlent, soi-disant ils sont jaloux pour l'islam. Jaloux de quoi? À part donner des mauvaises nouvelles et répandre les mauvaises choses, ils n'ont, il n'y a aucun intérêt. Parfois ils répandent des choses qui ne sont même pas vérifiées, qui sont des mensonges. Juste ils colportent. Des informations qu'ils récupèrent d'autres sites internet, qu'ils colportent comme ça sans vérifier. Et parfois même si l'information est vraie, nous, à notre niveau, nous n'en connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Donc, il faut se concentrer sur ce avec quoi on peut apporter une réforme. Se réformer nous-mêmes, réformer nos familles, réformer les gens autour de nous avec la bonne parole, le bon comportement, le bon exemple. Et c'est comme ça qu'une société se réforme. Quand les individus se réforment, les familles se réforment, les quartiers se réforment, la société se réforme. Mais les gens qui mettent toute la faute sur les dirigeants et qui veulent faire aucun effort, c'est très facile de jeter l'opprobre sur les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire par là qu'on accepte l'inacceptable. Ce qui est interdit est interdit, que ce soit commis par un musulman du commun ou un dirigeant. Donc on réprouve les choses qu'Allah n'aime pas dans notre cœur, on les réprouve. Mais on utilise la bonne manière pour les corriger. Regardez autour de nous combien de choses blâmables se passent dans nos maisons parfois. Dans nos proches, qu'a-t-on fait pour les corriger? Toi qui as une responsabilité sur 5 personnes, sur 10 personnes, tu n'as pas réussi à les mettre sur le bon chemin. Et tu vas blâmer quelqu'un qui dirige des millions de personnes par rapport à ce que ces millions de gens font. Comme j'ai dit, le blâmable, ça reste blâmable. On le déteste. On ne le justifie pour personne. Dans aucune situation. Mais il y a un chemin et une manière aimée par Allah pour corriger les erreurs. Al-Hadith al-Thamin, عن ابن عمر رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله الله تعالى خرجه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils acquittent l'aumône légale. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Quant à leur compte, il incombe à Allah. Ce hadith, il est venu démontrer le caractère sacré du musulman et à partir de quand quelqu'un est considéré comme musulman. On voit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent et qu'ils accomplissent en salat et qu'ils font la zakat. Est-ce que ça veut dire par là que si quelqu'un, par exemple un pays musulman, dirigeant des musulmans, envoie une armée pour prêcher l'islam, arrivé aux portes d'un pays non musulman, il y a une armée qui se dresse face à eux, qui les empêche d'aller prêcher l'islam. D'accord ? Ils les combattent. Voilà qu'ils attestent qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Est-ce qu'à partir de là on arrête de les combattre ? Ou comme le hadith dit, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait nulle divinité ni d'être adoré à part Allah et Mohammed le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat. En réalité, dès qu'ils font l'attestation de foi, ils sont devenus musulmans et leur bien et leur personne est sacrée. Il y a ici deux niveaux de sacralisation. Le premier, c'est ce par quoi ils entrent en islam, qui est la double attestation de foi. À partir de ce moment-là, on le juge de leur islam. Et on les considère musulmans et on agit avec eux selon les règles que l'islam a organisée par rapport aux musulmans. Mais dans le futur, c'est-à-dire dans le long terme, s'ils n'accomplissent pas la salat et ils ne donnent pas la zakat, à partir de là, il y a des règles qui s'appliquent à eux par rapport au fait qu'ils ont délaissé ces obligations ou par rapport au fait qu'ils auraient fait des interdits qui méritent qu'on les reprenne ou qu'on applique des peines légales sur eux ou qu'on les combatte. Est-ce que Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu n'a pas combattu des gens parce qu'ils ne voulaient pas donner la zakat? Voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, à la base, dès que quelqu'un atteste la double attestation de foi, on juge de son islam. Mais, ça ne veut pas dire par là qu'il est préservé de tout mal, si, plus tard, il délaisse des obligations comme la salat et la zakat, ou bien s'il fait des interdits qui méritent certaines peines. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Illa bi haqqi l'islam ».« Illa bi haqqi l'islam ». Sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Ici, la zakat, mais aussi sauf ce qui revient de droit à l'islam. Donc la salat, la zakat, le fait de faire les obligations, le fait de délaisser les interdits. Tout ceci entre dans les droits que l'on a envers l'islam. Le hadith est tassir. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم سنو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه il a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire quand je vous interdis de faire quelque chose délaissez-la et quand je vous ordonne de faire quelque chose faites-le dans la mesure de vos possibilités ceux qui vous ont précédé sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions et leurs oppositions à leurs prophètes rapporté par le Bukhari et le Muslim. Ce hadith, il vient nous montrer ce qui est obligatoire à un musulman quand Allah lui interdit une chose. Quelle est l'obligation du musulman quand Allah lui interdit une chose? De la délaisser sur le champ. De la délaisser sur le champ et de délaisser tous les moyens et les causes pouvant y mener. Il vient nous montrer aussi que concernant les obligations, ce qui est obligatoire, la manière d'agir du musulman, c'est d'en faire ce qu'il est capable de faire, ce qui est dans sa capacité, à mesure de sa capacité. Par exemple, la salat, le fait de tenir debout dans la salat, c'est obligatoire. Une personne qui ne peut pas se tenir debout, ou difficilement, alors il pourra s'asseoir. Mais le reste des obligations le resteront obligatoires. Il devra s'incliner, devra se prosterner, devra faire tout le reste. Celui qui ne peut pas se prosterner, mais il peut se tenir debout et il peut s'incliner, il devra faire le reste. Mais au lieu de se prosterner, il s'inclinera un peu plus, par exemple. Ou il se prosternera sur une chaise, par exemple. Ainsi de suite. Donc dans les obligations, c'est lié à la capacité. Et Allah Ta'ala dit « Fattakullah mastata'tum » Craignez Allah autant que soit peu, autant que vous pouvez, au maximum que vous pouvez. C'est-à-dire que les obligations, on en fait le maximum dont on est capable de faire. Ce qui dépasse notre capacité, Allah nous en tient par rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire la capacité? Ça ne veut pas dire j'arrive pas, il est feignant, la feignantise, ça, on parle de la capacité. On parle d'une capacité physique, réelle, incapacité physique, par exemple. Ou une incapacité liée à une situation qu'il ne maîtrise pas du tout. Quelqu'un, il est emprisonné. Il n'a pas d'eau. On lui dit prie. Il dit j'ai pas d'eau. On lui dit non, ta prière, elle n'est pas valable sans eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau à côté. Il dit oui, mais je ne peux pas l'atteindre. Il y a de l'eau à côté, mais je ne peux pas l'atteindre. On va lui dire quoi? On va lui dire ta prière elle est invalide. On va lui dire fais tayammum. Même si l'eau elle est à côté. Mais comme tu ne peux pas l'atteindre parce qu'elle est emprisonnée, fais tayammum, tu fais les ablutions sèches. Et tu pries. Qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un est attaché, assis, dans une pièce où il ne peut pas se mettre debout. Il doit prier. Pareil. N'est-ce pas? C'est ça, mastata'atum, ce que vous pouvez. C'est-à-dire ce que vous pouvez au maximum faire. Amma, ce qui sort de votre capacité, Allah ne vous en tient pas rigueur. Donc vous voyez ici que dans les interdits, il n'a pas parlé de capacité. On ne nécessite aucune capacité pour délaisser une chose. Il suffit de ne pas le faire. N'est-ce pas? Délaisser l'interdit, ce n'est pas lié à la capacité. Car il suffit de ne pas s'en approcher, tout simplement. Alors que faire une obligation, ça nécessite un effort, ça nécessite une capacité. Donc elle est liée à la capacité de chacun. Elle est liée, la capacité est prise en compte dans cela. On ne parle pas des cas de nécessité. Quelqu'un qui fait un interdit dans un cas de nécessité. On ne parle pas de ce cas. On parle en dehors du cas de la nécessité. La personne, il doit obligatoirement délaisser tous les interdits et tout ce qui mène à l'interdit et ses causes sur le champ. Il n'a aucune excuse pour le faire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les peuples avant nous n'ont péri qu'à cause de leurs nombreuses questions et leur opposition à leur prophète. De qui parle-t-il ici? Les gens avant vous. Dans le Coran, quand il est cité les gens avant vous, ce sont les juifs, les chrétiens, les mouchriquines et tous les gens avant. Par contre, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cite les gens avant vous, c'est spécifiquement les juifs et les chrétiens. On retrouvera à chaque fois dans les hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les gens avant vous, il parle des juifs et des chrétiens. Ils n'ont péri qu'à cause de cela. C'est-à-dire des questions qui ne sont pas des questions pour apprendre, pour pratiquer, mais ce sont des questions pour rentrer en opposition. Pour gagner du temps ou pour essayer de trouver une manière ou une cause pour délaisser ces actes-là ou ne pas faire les obligations. Comme l'histoire des juifs dans le Baqara. Allah leur a ordonné de sacrifier une vache. Une vache, nakira, n'importe quelle vache. Quelle vache, quel type de vache, quelle couleur de vache. Ces questions-là, est-ce que c'est une question pour apprendre, pour pratiquer l'ordre, ou ce sont des questions pour se mettre en opposition? Ce sont des questions pour se mettre en opposition. Donc ce n'est pas toute question qui est bonne à poser. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Je reçois beaucoup de questions. La majorité des questions que je reçois sont inutiles. Des questions qui ne poussent pas à des actes. Ou alors les gens questionnent pour autre que. Il y a un tel, il a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Un autre, il a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Questionne pour toi, questionne pas pour les autres. Questionne pour quelque chose qui va te pousser à faire un acte. Ne questionne pas juste pour juger les gens. Lui, il est égaré, lui, il est bien guidé, lui, il est... Questionne pour toi, quelque chose qui va être utile à toi dans ta religion. Si tu questionnes pour savoir est-ce que cette pratique est bonne ou non pour toi, pour le pratiquer, oui. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est juste pour dire, ah lui, il est pas bien et moi, je suis bien. Ou des questions qui ne les regardent pas. Des questions sur des choses de l'invisible dont la connaissance ne va rien lui rajouter dans sa foi ni dans sa pratique. Ou des questions sur les histoires des prophètes, de quel habit, quelle couleur était l'habit de tel prophète. Qu'est-ce qu'on en a à faire, barakallahu fik? Est-ce que tu as compris que ce prophète, il est venu appeler au tawhid et à adorer Allah, il s'est fait châtier pour ça, et son peuple l'a combattu? C'est ça que tu dois comprendre. C'est pas de comprendre quelle couleur d'habit il avait. Donc, il faut savoir poser les questions qui sont utiles pour ta foi et ta pratique. Et non pas poser une question pour poser une question. Il y a des questions qui sont nocives pour la personne. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Si Allah ne les a pas dévoilées, c'est qu'on n'a pas besoin de les savoir. Donc, poser beaucoup de questions blâmables, c'est ça qui est réprouvé ici. Par contre, quelqu'un qui pose des questions légales, des questions intelligentes, oui, ça c'est le moyen d'apprendre la science. D'ailleurs, il a été dit qu'Abdullah ibn Abbas a dit qu'une des causes, ils lui ont demandé quelle est la cause par laquelle tu as appris la science, il a dit, j'ai une langue qui pose beaucoup de questions. Mais, c'était quoi les questions d'Ibn Abbas? C'était quoi les questions des sahaba? Lisez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Ô messager d'Allah, que puis-je faire pour gagner le paradis? Ô messager d'Allah, comment puis-je corriger mon caractère? C'est ça les questions. Ça c'est une question. C'est pas toutes les questions. Je me suis disputé avec un tel, qui a raison? En fait, les gens ils connaissent la religion que pour chercher à vaincre les autres, pas pour chercher à se corriger. Il m'a mangé mon argent. Ou parfois c'est une polémique dans un point religieux. Juste il veut avoir raison. Ils veulent pas arriver à la vérité. Leur objectif c'est pas de savoir qu'est-ce qu'est la vérité à prendre. Non, c'est j'ai raison ou t'as tort. Peu importe qui a raison, qui a tort. C'est l'islam qui a raison. Tout le monde a tort. La religion d'Allah a la raison et on a tous tort. Quand on est en concordance avec elle, dans la forme et dans le fond, on a raison. Quand on n'est pas en concordance avec elle, dans la forme et dans le fond, on a tort. C'est ça l'important qu'il faut comprendre. Allah a révélé cette religion pour nous corriger, pour nous éduquer, pour que ce soit une voie de correction, de purification, d'union dans le bien, non pas une voie de dispute, de discorde, de polémique, de guéguerre. C'est pas ça l'objectif de l'islam. Donc, une des causes de la perdition des juifs et des chrétiens, c'est leurs nombreuses questions et leurs nombreuses oppositions à leur prophète. Donc il faut prendre leçon et ne pas faire la même erreur que Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.